maintenant.
On fera circuler une petite feuille.
Là,
ça tourne.
On va reprendre l'introduction au point où nous étions arrivés. Donc, je vous avais parlé, je crois, de l'autorité doctrinale des pères, le dernier point du grand B de l'introduction. Bien. Alors, on va aborder le point grand C, essor de la patrologie et de la patristique. Maintenant, vous connaissez la différence entre les deux. Hein. Alors, d'abord, l'historique de, si je puis dire, de cet essor. Hein. Eh bien, la patrologie, si j'ose dire, est née avec Saint Jérôme. Saint Jérôme, vous savez, originaire de Dalmatie, qui publie en 392 un De viris illustribus, donc des gens illustres, des gens célèbres, sur le modèle de Suétone, un auteur latin. Il va rédiger 135 notices, qui commencent, comme je vous le disais la dernière fois, avec, je crois, avec les évangélistes, avec Saint Pierre, avec les apôtres, les évangélistes, etc. L'œuvre de Saint Jérôme va être copiée, recopiée, au sens propre du terme, hein, puisqu'il n'y avait pas d'imprimerie, et elle va être aussi prolongée par d'autres auteurs, par exemple le prêtre alors, il faudrait peut-être que j'apporte la...
Que vous apportez ou que j'apporte Allez-y, vous l'avez, non, mais non,
non, plus, non. Je crois que j'ai mais j'ai pas mon feutre, j'ai oublié mon feutre.
Oui. Ah, vous avez le feutre ou pas?
Non, je l'ai pas, en fait.
Bon, bah alors, ça sert à rien. Pas besoin.
Il n'y a pas de feutre.
Est-ce qu'il vous reste un plan?
Ah oui, il reste un plan. Voilà.
Merci.
C'est pas la peine.
À moins qu'il y ait un feutre là-bas. Alors, l'auteur s'appelle. Jérôme, c'est pas la peine de noter. Enfin, vous savez comment ça s'écrit. Donc, c'est un prêtre de Marseille qui s'appelle Génade. Génadius, hein, évidemment, donc ça c'est francisé, qui au siècle suivant, à la fin du 5e siècle, donc, va rajouter 97 notices. Alors, évidemment, des notices qui seront davantage centrées sur, sur le monde gaulois. Hein. Et puis plus tard, Saint Isidore de Séville et Saint Ildefonse de Tolède, au 7e siècle, vont encore rajouter des notices, mais évidemment beaucoup plus du monde espagnol visigothique, le monde qu'ils connaissent. Pourquoi ? Parce qu'à cette période, donc fin de l'Empire d'Occident, c'est la période où les communications sont extrêmement difficiles et que la connaissance d'une église à l'autre devient très, très problématique. Alors en tout cas, voilà, les premières collections en quelque sorte sur les auteurs de l'Antiquité, voyez, Saint Jérôme, continué par des auteurs qui sont eux-mêmes en partie des pères de l'Église, Saint Isidore de Séville étant le dernier en Occident. Au Moyen Âge, on sait que les auteurs du IXe siècle, par exemple, connaissent les pères qui ont été recopiés dans les monastères. Les monastères vont se livrer à ce travail de transmission du savoir, et en particulier des grandes collections de l'Antiquité. Et à son apogée, au moment de la fondation des universités au XIIIe siècle, le Moyen Âge va constituer ce qu'on appelle en latin des catenées.
Des chaînes.
Catenées, des chaînes. qui sont à partir de l'Écriture sainte, on va citer des commentaires d'auteurs patristiques. Vous voyez, ça fait donc une sorte de chaîne. Souvent, c'est présenté. Alors, Caténée à Aurée, c'est la plus connue, chaîne d'or. Alors, souvent, sur la page, vous avez une page comme une page, quoi, les mains, je ne sais quoi. Vous avez au centre un verset biblique ou un petit passage de la Bible. Et puis, tout autour, eh bien, des citations de pères qui ont commenté ce passage. Par exemple, Chrysostome, dans ses commentaires sur saint Matthieu, ou etc., etc. Et vous avez ainsi, en somme, un instrument très pratique, parce que ça permet aux théologiens de l'époque universitaire de savoir ce que les pères de l'Antiquité avaient pensé, avaient dit sur un extrait, une péricope biblique, par exemple. Ou alors, ça sera sur des questions qui se posent, et on va noter ce que les pères ont dit. Donc, vous voyez, c'est pas l'édition des œuvres elles-mêmes qu'on retrouve parfois dans les monastères, qui ont été recopiées dans les monastères, mais s'agit plutôt d'instruments de travail. Auparavant, donc juste avant la fondation des universités, à la fin du XIIe siècle, le grand instituteur, en quelque sorte, du travail universitaire occidental, Pierre le Lombard, qui était évêque de Paris, publie ses sentences, le Liber Sententiarum, le livre des sentences, qui est où il cite abondamment les pères de l'Église, qui sont considérés comme les auctoritates, les autorités qui font foi. Alors on se sert à cette époque des pères de l'Église un peu comme d'armes qu'on tire d'un arsenal. Hein. Voilà. On a quelque chose à démontrer, quelque chose à réfuter. Alors hop, on va prendre l'extrait de patristique qui correspond et qui permet de s'abriter derrière l'autorité d'un Augustin, d'un Chrysostome, etc. Et donc c'est un peu la manière dont on utilise la Bible aussi. Hein. À cette période, on utilise la Bible également comme une sorte d'arsenal où les versets font figure d'armes, en quelque sorte. Et là, au Moyen-Âge, donc, on ne va pas s'intéresser tellement à l'auteur, et même pas d'ailleurs à l'œuvre dans son intégralité, mais juste, par exemple, à telle pensée d'un auteur sur un sujet. Donc on tire un petit peu la pensée des pères de leur contexte. Et quand on ne connaît pas l'histoire ou l'historicité même de l'œuvre d'un père, on peut parfois, par exemple, citer une idée qui a été ensuite abandonnée par un père au fur et à mesure du développement de sa pensée. Vous savez, par exemple, que saint Augustin a publié à la fin de sa vie des Retractationes. Alors, rétractationnel, ça ne veut pas dire des rétractations, hein, mais ça veut dire le fait de retraiter un sujet, c'est-à-dire traiter un sujet à nouveau frais. Alors, on voit comment sa pensée a pu évoluer, et évidemment, citer le premier Augustin, ça peut être aussi l'Augustin définitif, mais parfois c'est un Augustin qui sera corrigé ultérieurement. Un auteur de la fin du XIIe siècle, qui est Sigebert de Jean Blou, c'est en Belgique, en Wallonie, va prolonger le De Veris Illustribus de Saint Jérôme, qui est toujours connu, par 171 notices plus récentes qui vont un peu balayer les auteurs du Haut Moyen-Âge.
Voilà Damien.
Comment ?
Voilà Damien.
Ah, c'est bien. Et au passage, Sigebert de Jean Blou s'étonne de ne pas voir figurer dans le catalogue de Saint Jérôme le pseudo Denis, Denis l'Aréopagite, Vous voyez, donc ça veut dire aussi que dans ce travail, il y a aussi des lacunes importantes. Sans compter, évidemment, lui, il est du monde grec. Alors, vous voyez, après, à l'époque où Isidore de Séville ou Ildefonse de Tolède vont compléter le De Viris Illustribus, ils vont complètement ignorer le monde grec. Et plus tard, on sera toujours dans cette même ignorance mutuelle des deux poumons, comme dirait Jean-Paul II, de la chrétienté. Alors, évidemment, nous, aujourd'hui, on connaît beaucoup plus de pères qu'à l'époque. Certains, évidemment, sont moins lus, il faut bien en connaître. Pourquoi ? Parce qu'au XIXe siècle, j'en reparlerai un petit peu plus tard, on a fait de considérables découvertes de textes dans des bibliothèques ou alors carrément dans le sable du Moyen-Orient, du Proche-Orient. À la Renaissance, donc vous voyez, on passe assez vite, hein, Antiquité, Saint-Jérôme, Moyen-Âge, on a les chênes, on a Pierre le Lombard, on a un certain nombre d'auteurs, de monastères qui ont conservé des écrits et qui ont cité des pères. À la Renaissance, vous savez que la Renaissance se caractérise par le goût de l'Antiquité et donc un retour à la culture antique. Alors, on va éditer on va éditer ces auteurs de l'Antiquité chrétienne et on va s'intéresser au monde grec. Le monde grec qui ne nous fait plus tellement concurrence puisque maintenant il est sous la tutelle du croissant et qu'un bon nombre d'érudits byzantins sont passés à l'ouest. Le plus connu étant le cardinal Bessarion, mais plein d'autres. Si bien qu'on va récupérer des textes des textes grecs. Et on va éditer ces textes. Et cette fois-ci, on va les éditer d'une manière beaucoup plus facile. On n'est plus obligé de les recopier. On va les imprimer. Donc on va avoir les premières éditions en latin, des pères latins. Alors, c'est pas compliqué. Et l'établissement du texte. Enfin, je vous laisse. S'il y en a qui ont fait l'école des chartes ou des études de lettres classiques, hein, vous voyez que c'est pas si simple. Donc, édition en latin des pères latins et traduction en latin des pères grecs. Voilà. Puis après, comme la Renaissance s'intéresse précisément au grec et le réapprend, eh bien, il y aura même l'édition des éditions des pères grecs en grec. Un certain Jean Trithem, en 1516, donc vous voyez l'année qui précède les thèses de Luther, va publier des notices sur plus d'un millier d'auteurs de l'Antiquité grecque et latine. Vous voyez ? La période baroque va poursuivre le travail de la Renaissance avec, par exemple, Saint Robert Bellarmin, le cardinal jésuite, qui va utiliser les pères de l'Église pour ses cours, notamment de controverses avec les protestants. Et l'époque moderne va être une époque, on pourrait dire, va connaître un regain d'intérêt pour la patrologie sous un angle plus scientifique. Des travaux d'érudition vont être menés par Denis Pétao, qui est un français en fait, on pourrait prononcer en français, on va dire Denis Pétao, 17e siècle, qui va être suivi de toute l'école mauriste, c'est-à-dire de ces bénédictins réformés du XVIIe siècle qui vont particulièrement s'intéresser à l'histoire et qui vont éditer d'une manière scientifique maintenant les textes, voyez. Donc ils vont faire attention aux variantes, à l'origine des manuscrits, etc. Et ces travaux d'érudition, d'édition, sont précédés d'introductions qui resituent l'auteur, qui sont, on pourrait dire, des travaux vraiment modernes. Alors, ce travail ne concerne pas que l'Église catholique. Il y a également les luthériens et les anglicans s'intéressent à cette littérature ancienne, antique. Vous vous souvenez même que les termes de patrologie et de patristique viennent des milieux luthériens du XVIIe siècle. Alors, les textes vont continuent d'être publiés. Et puis on va se dire, il y en a tellement que les gens vont s'y perdre. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des manuels. Alors les manuels vont présenter les auteurs, citer les textes les plus représentatifs, de manière à ce que les gens ne se perdent pas. Alors un des premiers travaux de ce genre, c'est un certain Johannes Gerhardt, qui à Iéna, en Thuringe, publie en 1653, je vous le dis en latin, Patrologia sive ou De primitive ecclesiae christiane doctorum vita ac lucubrationibus. Autrement dit, la patrologie ou la vie des docteurs de la première église chrétienne et de leurs travaux. Alors, travaux. Lucubratio, ça signifie le travail fait de nuit. Donc c'est des travaux nocturnes.
Sans électricité.
Ben oui, avec une chandelle. Lucubratio. Donc, vous voyez, première période d'édition un peu critique et scientifique des textes, qui va se poursuivre évidemment au XIXe et au XXe siècle, qui sont les grands siècles de la redécouverte de la patristique. Alors d'abord, comme je vous disais, on va retrouver des textes qui étaient perdus. Par exemple, les textes d'Hippolyte de Rome. Le fameux petit texte du début du IIe siècle qu'on appelle la Didache, ou Didache, l'enseignement des 12 apôtres. On va redécouvrir un grand texte de Saint-Irénée de Lyon. On connaissait l'Adversus Hereses, mais on va découvrir la Demonstratio Apostolica, etc.
Et qui était caché où, ce texte ?
Alors, il y a des textes qui étaient cachés dans des bibliothèques, enfin, qui étaient dans des bibliothèques, mais, vous voyez, les moines avaient recopié des textes sans savoir de qui ils étaient. Et puis, il se trouve, par exemple, que vous lisez, tel auteur qui cite un tel, et il met un certain nombre de lignes, puis soudain, vous dites, mais tiens, ces lignes-là, c'est précisément le texte anonyme qu'on a ici. Alors on se dit, bah tiens, c'est un tel. Parfois, c'est des textes qu'on n'avait jamais vraiment explorés. Première liste des livres canoniques de la Bible, qu'on appelle le canon de Muratori. Muratori, c'était un bibliothécaire du XVIIIe siècle qui a découvert ce texte dans la bibliothèque de Milan, si je ne me trompe. Donc c'était un texte qui existait, mais qu'on n'avait jamais lu, dont on n'avait jamais pris conscience de l'importance, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a des textes qu'on a découverts tout simplement dans des bibliothèques, dans des monastères du Proche-Orient. Au moment précisément où l'Empire ottoman va s'ouvrir un peu aux érudits occidentaux. Donc on va découvrir toute une série de textes qui avaient été oubliés, perdus, etc. Vous savez, c'est comme ça qu'on a découvert même un grand manuscrit, un grand papyrus en onciale, en onciale en lettres majuscules, de la Bible, quasiment une Bible complète en papyrus, dans un monastère, du Sinaï, et un peu la légende de c'est von Tischendorf qui l'a découvert, un Saxon, disait que un moine qui avait un peu froid commençait à mettre ses papyrus au feu pour se réchauffer. Donc on ne comprenait vraiment pas un copte qui devait plus savoir le grec, quoi. Hein. Et donc, hop, on a découvert comme ça, c'est le manuscrit, le Sinaiticus, qui est l'un des codices les plus, il y en a 4 ou 5, hein, qui sont quasiment complets. Qu'on a découvert au 19e siècle.
Qui est toujours à Sainte-Catherine.
Non, je crois pas. Il est à... Alors, c'était très compliqué parce que il s'est retrouvé en Russie. Après, les Russes l'ont revendu aux. Les Russes qui avaient besoin d'argent, les bolcheviks l'ont revendu aux Anglais. Et je me demande s'il n'est pas au British.
Il y a quelques pages dans le trésor de.
Ah oui, peut-être. Peut-être il y a des pages. Alors, bon, il doit y avoir aussi des. Oui, je crois que ça avait été racheté par les Anglais. Dans les années 20. Alors donc, c'est la grande période de la publication scientifique de textes. Alors il y a des associations qui vont se constituer, ou des académies qui vont s'intéresser à ce travail. Donc l'Académie des Lettres de Vienne, par exemple, qui en 1866, une date qui est un peu cuisante pour les Autrichiens, va... C'est Sadova. Alors, ils vont se venger en littérature. Alors, ils vont produire le Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. Donc, le corps des écrivains ecclésiastiques latins. Donc, une immense édition qui continue d'ailleurs, qui est en cours, sur les pères de l'Église latins. Donc, édition des textes en latin. On a également les concurrents de l'autre côté, les Allemands, vont publier dans leur Monumenta Germaniae Historica. Donc, les monuments, ça ne veut pas dire des bâtiments. Hein. Les monuments, c'est, on peut dire, les productions, les œuvres. Les œuvres historiques d'Allemagne, de Germanie, eh bien... entre 1877 et 1898, tout ce qui a pu être écrit, vous voyez, dans les milieux germaniques. Ils vont produire 13 volumes d'autores antiquissimi, donc des auteurs les plus anciens qui se trouvaient dans le monde germanique. Donc 13 volumes, c'est quand même pas rien, hein. L'Académie des sciences de Berlin aussi, donc de Prusse, en 1897, va commencer une collection, alors là, d'auteurs grecs. Hein, c'est Griechische Christliche Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Je dis ça pour notre cher Hugues. Donc les écrivains chrétiens grecs des trois premiers siècles.